Ça fait bizarre de se lever aussi tôt le matin, un dimanche matin. C'est pas trop notre habitude, nous c'est plutôt le samedi. Mais je dois vous confesser que j'ai un petit entraînement puisque dimanche dernier, je me suis levé à 5 heures pour rejoindre Genève et pour y tenir des comités par là-bas. Le dimanche précédent, c'était un stage bavedé. Donc ça va, j'ai 3 dimanches où je commence à me caler. Je suis prêt pour l'ouverture de la pêche. Pour la semaine prochaine, je crois. Non, c'était peut-être hier. Ça viendra. Comment se présenter? Alors, on m'a présenté comme pasteur de l'église adventiste. J'ai du mal, pour ma part, à retenir les prénoms. Alors, je m'appelle Jérémy. Vous pourrez ajouter Bernard, Jocelyn, André. Ça, c'est tous mes prénoms. Vous en souviendrez peut-être pas. Mais j'aime bien, en tout cas, en ce qui me concerne, avoir des moyens mnémotechniques pour me rappeler un individu. Et généralement, je me rappelle bien mieux du contexte d'un verset que de sa référence précise. De la même manière, je me rappelle bien plus souvent d'une personne par rapport à un contexte que par rapport à son prénom. Donc d'avance, pardon à tous ceux qui ce matin se sont présentés, dont je ne me souviendrai absolument pas le prénom. Mais j'aimerais me présenter au travers d'un verset qui est pour moi fondateur. Vous savez, quand on est baptisé, jeune baptisé, alors pour ma part, je me suis engagé, j'avais 17 ans, presque mes 18, et puis derrière ça, je suis parti directement en fac de théo. Quand je regarde les raisons pour lesquelles je me suis engagé, parfois je rougis un tout petit peu. J'étais jeune, j'avais un leader de jeunesse qui était un bon gros leader de jeunesse, qui était là et qui m'inspirait fortement. D'autant plus qu'il remplaçait une figure paternelle absente sur un point de vue spirituel. Et donc du coup, voilà, on s'engage autant pour Dieu que parce que l'on aime celui qui était à l'époque votre pasteur et puis qui plus tard deviendra votre beau-frère parce que vous lui avez piqué sa sœur et que, voilà, elle deviendra votre épouse, etc. Et que vous deviendrez pasteur comme lui l'a été. Enfin bon, vous savez, tout ce qui fait que parfois on se dit « mais est-ce que je me suis bien engagé pour les bonnes raisons ?» Et pendant longtemps, j'ai un petit peu rougi de ça en me disant « quand même, m'être engagé pour des raisons aussi... peut-être légère, qu'en sais-je. » Peut-être que parmi nous, il y en a qui se disent « Ouais, je me suis engagé, mais quand je regarde mes motivations réelles, bonne ambiance de groupe de jeunes, contexte où je me retrouvais tout seul dans une ville, et puis là, une communauté qui m'accueille, la fraternité, etc. etc. C'est quoi qui m'a touché ?» Parfois, on est un petit peu comme ça. Moi, il y a un verset qui m'a réconcilié avec ma conversion et avec mon engagement. Ce verset, vous le trouvez dans Philippiens, chapitre 1, et au verset 6, et c'est comme ça que je me présenterai à vous, au travers de ce verset qui dit « Je suis persuadé d'une chose, les amis, je suis persuadé d'une chose, c'est que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. » Moi, je l'aime bien, ce verset-là, parce que loin de condamner les raisons ou de juger, de peser les raisons qui font quelque part notre engagement, que fait l'apôtre Paul? Il dit quoi? Je me réjouis quand j'entends parler de vous. Je me réjouis quand je prie pour vous. J'ai de la joie. Et vous savez quoi? Je suis persuadé d'une chose, c'est que quelles que soient les raisons pour lesquelles, je paraphrase, mais ça c'est pour moi, après chacun fait ce qu'il veut. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu t'es engagé, tu sais quoi? Je suis persuadé d'une chose, c'est que tu as une vie entière pour bâtir ce lien intime, cette intuition peut-être qu'il y avait quelque chose à explorer là, avec ce Dieu, ce Fils Jésus-Christ qui t'était proposé. Et tu sais quoi? Eh bien, ça va continuer de se bâtir. Alors ne rougis point sur les ondes de ton engagement, mais continue à avancer et sois dans la joie avec nous tous. Voilà, ça c'est un petit verset qui me présente. C'est pour ça aussi, c'est un des, vous savez, quand on se présente aussi, c'est quel est ton pilier, ton verset fondateur? Ben voilà, moi c'est une des raisons pour lesquelles je suis pasteur. Je ne désespère pas de voir des progrès, non seulement chez ceux qui sont dans ma communauté, mais aussi chez moi-même, en me disant, voilà, un petit regard porté plein de bienveillance, tel que le Seigneur peut l'avoir sur moi, avec toutes mes imperfections. Ça fait du bien pour avancer dans la vie. Un verset, un chapitre. On ne serait pas adventiste si on ne mettait pas de temps en temps les pieds dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous l'ouvrez souvent. Ouais? Non? Peut-être pas? Allez, je vais prendre le risque avec vous ce matin, mais ce n'est pas une prédication adventiste que je vais vous faire, je vais vous rassurer tout de suite. Je vais vous prendre un verset qui, enfin, une série de versets qui se trouve au chapitre 3. Et vous avez vu dans mon verset fondateur, c'est jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, hein, d'accord ? Jusqu'à ce jour glorieux. Il se trouve que c'est pas mal, parce que dans la Bible, on a un livre qui nous parle quand même un petit peu de cette période-là, et des temps qui précèdent un petit peu, etc., etc. Et loin d'être une mauvaise nouvelle, le livre de l'Apocalypse commence en ceci, en disant « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent tout ce qui est écrit, car le temps est proche. » Bon, de quel temps s'agit-il ? Le texte qui m'intéresse ce matin se trouve au chapitre 3 et à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. On va en faire la lecture si vous voulez bien. Et puis on va voir un petit peu où est-ce que cela nous mène. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et que tes vêtements et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez vu le dernier verset ? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et je note un pluriel. Un pluriel qui est là, ce n'est pas un message pour l'église adventiste ou simplement à l'église de Laodicée. Mais c'est un message qui est destiné à tous ceux qui, peut-être, trouvent dans ce texte-là des éléments d'interpellation. Or, qu'est-ce qui caractérise peut-être notre époque ? Dans ce texte, on nous parle d'une église qui est connue d'un témoin fidèle et véritable, auteur de la création de Dieu. Et on nous dit de cette église qu'elle n'est ni froide ni bouillante. Et à cause de cette tiédeur, on nous dit bien, parce qu'elle n'est ni froide ni bouillante, eh bien, ça donne la nausée. Ça donne la nausée au témoin fidèle et véritable, au point même de dire « je vais te vomir ». Le terme est un petit peu violent quand on y regarde comme cela. Je vois peu de prédicateurs capables de dire de but en blanc à une assemblée, imaginez-vous Eric, je ne sais pas, vous savez quoi, j'ai la nausée ce matin, vous me faites gerber. Non mais, je parle avec des termes qu'on comprend aujourd'hui, je le fais volontairement parce que c'est un tout petit peu violent, mais ça caractérise un état de, sans doute, de sidération par rapport à ce qui est en train de se passer, ou de non-choix, et d'un non-choix qui est d'autant plus alimenté qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un est convaincu de quelque chose, on le soupçonne d'extrémisme et de toute forme d'excès. Et dire aujourd'hui, soit chaud ou soit froid, serait interprété comme une incitation à l'excès et une forme d'extrémisme. Et vous connaissez, beaucoup de gens disent aujourd'hui, vous savez, je dis ça, je dis rien. Style, ma voix ne compte pas forcément. Je mets le doigt dans l'eau, je vérifie si elle est... Non, puis je le retire. On ne va pas prendre trop de risques. Et on constate avec force qu'aujourd'hui, la parole peut littéralement tuer. Les dessins aussi. Mais que se positionner par rapport à quelque chose peut devenir dangereux, y compris pour sa propre voix. Et ce qui est caractéristique de cette église, c'est quoi ? C'est une période où il n'y a plus vraiment de direction qui est prise dans un sens ou dans l'autre. Le thermomètre, on pourrait presque dire, est cassé. La température est médiane. Et ce qui est caractéristique de cette église, c'est quoi ? C'est qu'elle se sent riche et qu'elle n'a pas la conscience de sa richesse. Soit tendance à considérer que si on prend ces messages d'Église dans un axe chronologique, il se pourrait que cela décrive un petit peu ce qui se passe peut-être dans notre culture occidentale. Je dis bien peut-être. C'est une possibilité d'interprétation en se disant, tiens donc, comment se fait-il qu'on soit autant partagé entre ce que nous disons être notre foi, notre raison de vivre, et ce que nous vivons réellement dans le quotidien? Comment se fait-il que nous compartimentions aussi bien notre vie de foi d'avec celle de notre vécu dans ce qui fait notre société? Comment se fait-il que l'on soit peut-être aussi peu heureux ou fier de ce qui est pour nous une bonne nouvelle vivifiante? Vous savez, ces questions-là, elles traversent tous les courants et elles interpellent aussi nos communautés. Faudrait-il que nous devenions parfaitement pauvres pour retrouver à nouveau la foi? J'ai entendu il n'y a pas très très longtemps quelqu'un qui me disait « Mais en fait, il ne faut pas que l'Afrique devienne riche. » Parce qu'aujourd'hui, c'est le pays où la foi se développe sans doute le plus. Malheur à elle si un jour elle devenait riche. Mes amis, quel manque de compassion vis-à-vis de ceux qui vivent dans une forme de misère crasse. Non, non, la richesse, c'est aussi la richesse de toute cette possibilité intellectuelle qui s'offre à nous. Avec tous ces contenus où on nous dit blanc, où on nous dit noir, et où au niveau de ce que l'on nous décrit du monde, on ne sait plus littéralement à quel saint se vouer, qui croire ou aller. Si bien qu'on préfère la position de la neutralité, devenir tiède, et finalement passer à côté de cette épée tranchante dont Jésus dit être la parole. Je te conseille d'acheter de l'or de moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, car en réalité, tu es nu et tu as besoin de voir et de voir à nouveau, de voir avec un regard nouveau. Ça vous rappelle sans doute un petit peu le passage avec Nicodème, une visite au milieu de la nuit, d'un vieil homme qui a une pratique religieuse, etc., etc., mais qui se pose des questions et qui en même temps reste comme cela... Voilà, en observateur. Jésus va lui dire, non, tu sais quoi? En ce qui te concerne, ce qu'il te faut, c'est quelque chose d'un petit peu plus radical que cette démarche sans doute tout à fait vénérable que tu as de venir me voir, de venir m'interpeller. Mais il faut que tu renaisses de nouveau. Il faut qu'il y ait un truc nouveau qui se passe. Mais le verset qui m'a le plus touché dans ce texte-là, et c'est sans doute celui qui me parle, et c'est un des versets qui m'anime profondément, c'est ce verset de cette porte à laquelle le Christ semble se tenir et le fait qu'il y frappe. Et cette parole qui dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand on lit ces versets-là, il y a quelque chose de très très familier dans les évangiles. Jésus attend-il qu'on l'invite pour s'inviter chez les gens? Pas forcément. Rappelez-vous un petit bonhomme perché dans un arbre. Quelle est la parole que Jésus-Christ lui dit? Ce n'est pas une question rhétorique, là. Hein, vous pouvez répondre. Ce soir, c'est chez toi que je vais venir. Manger en plus. On va partager quelque chose. Malgré le regard de tous les autres. Attendez, la bienséance, c'est d'être tiède. D'accord? On ne prend pas, surtout pas de risque, et on ne se mélange pas avec ce qui peut sembler un extrême. Collaborer avec des Romains, etc., etc. On reste tiède. Sait-on jamais qu'on se dilue un petit peu plus dans l'environnement dans lequel on est? Jésus prend un risque et il prend le risque de ce repas-là. Mais quand vous regardez ce texte-là, vous avez aussi des éléments qui nous renvoient à d'autres textes. Je vais juste... J'ai combien? J'ai 2 heures pour prêcher, hein, c'est ça? Hein? Bon, d'accord. Ça marche. Je vais juste... Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est cette manière que Dieu a de rester à la porte sans me brusquer, sans la défoncer. Le texte pourrait sembler tout à fait radical, et en même temps, il est empreint d'une réelle tendresse à notre égard, d'une réelle discrétion, d'une réelle disponibilité de la part de Jésus-Christ. On va se tenir sur le seuil de la porte, si vous voulez, quelques instants ensemble, pour voir un petit peu qu'est-ce que... à cette entrée de cette maison, de ma maison, qu'est-ce qui se joue là ? Vous savez que bien souvent, il y a une règle en matière d'interprétation du texte. Alors, on n'est pas tous des théologiens, on n'a pas tous accès au grec, à l'hébreu, etc., etc. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand vous rencontrez un mot dans le texte biblique, pour savoir quel est, on va dire, son sens, on va dire, originel, il est intéressant de voir la première fois où il est utilisé dans le texte biblique. Et quand on vous dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe, si je vous demande de décrire une porte, la plupart de vous, d'entre vous, me diront quoi ? Ben, regarde au fond de la salle, tu vois, il y en a une, c'est un rectangle, etc., etc. Bon, ok, ça s'ouvre, ça se ferme, il y a un dedans, il y a un dehors. Bon, je vous passe tout le descriptif qu'on peut se faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on recherche la première fois où le terme est utilisé dans le texte biblique et qu'on voit de la manière avec laquelle il est utilisé, vous pouvez être quasiment certain, il y a toujours des exceptions, mais qu'une des possibilités pour vous d'enrichir votre lecture biblique et de considérer avec quel sens il a été utilisé en tout premier. Parce que la définition qui est donnée là, l'usage qui va en être fait, va du coup se décliner partout dans le texte biblique parce que les auteurs bibliques ont aussi cette formidable connaissance ou inspiration, on peut le voir, et connaissance du texte biblique pour se connecter et faire des renvois comme ça en permanence vers d'autres textes. Alors, d'aussi loin que votre mémoire vous renvoie, où est-ce que, d'après vous, dans le texte biblique, on trouve la première mention de la porte ? Alors, Noé, attention, c'est la foire aux propositions. Mais c'est intéressant, prenez des risques, parce que je ne vous demande pas d'être tiède, là. Qu'on soit clair. Alors, vous me dites, l'arche, il y a une porte qui est fermée. Intéressant, on va y venir. Quoi d'autre ? La porte du jardin d'Éden. Mes frères, y a-t-il réellement une porte ? Mais c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que pour toi, il y a une porte. Et on va y aller. Autre passage. Je vois les bibles qui s'ouvrent. Allez, on va le faire. Allez, on y va. On part sur la Genèse. On part sur la Genèse. Et ton prénom, rappelle-moi. Oui. Cyril. Cyril nous dit, ben, il y avait une porte à la Genèse. Dans la Genèse, eh oui. Une porte dans la Genèse. Alors, si vous allez au chapitre... Tac, 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 au chapitre 3. Et au verset 22, on est à ce moment où crucial, où l'homme et la femme viennent de mordre dans le fruit, etc. Et où on nous dit au verset 21 que Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien ou du mal, eh bien quoi ? Évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre éternellement. Dit autrement, puisqu'il a la connaissance du bien et du mal, si en plus de ça, il vit éternellement, alors, pour faire dit autrement, le mal gagnera son éternité, pour faire simple. Et l'Éternel va avoir cette phrase qui dit, verset 23, « L'Éternel Dieu les renvoya donc du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent le sol d'où ils avaient été tirés. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » À proprement parler, on ne parle pas vraiment d'une porte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'aussi loin qu'on se rappelle, d'accord, il y a un intérieur où on était dans la toute présence de Dieu, dans la toute protection de Dieu, et puis il y a un extérieur. Et littéralement, Adam et Ève, dans l'expression populaire, c'est quoi ? Sont mis à la porte du jardin d'Éden, de l'autre côté. En dehors de ce lieu créé spécialement pour eux, dans la félicité de la présence de Dieu, avec tout ce que cela comporte. Cela nous renvoie peut-être à des épisodes douloureux où nous avons aussi été peut-être mis à la porte de quelque part. Jamais agréable. Toujours extrêmement déroutant. Pour ma part, j'ai vécu ça pendant 3-4 jours. J'étais mis dehors de chez moi, j'ai dormi dans ma voiture et au milieu d'une forêt, dehors par mon père, parce qu'on s'était fortement opposé, voilà, et suite au divorce de mes parents, et ce jour-là, je n'étais pas à la fac, j'avais rendu ma chambre, etc., etc., je suis rentré chez lui, je suis resté quelques temps, et on s'est disputé fortement, et j'ai pu découvrir ce que c'était que de vivre dehors sans toit sur la tête. Ça laisse des traces. Pendant toutes mes études de théologie, je me rappelle, j'ai cherché le moindre bout de ruine pour en acheter un, pour me construire un chez-moi dont on ne me mettrait jamais dehors. Et pendant des années, le Seigneur m'a appris qu'on peut être locataire sans avoir un chez-soi à soi. Et le jour, paradoxalement, où j'ai été guéri de cet aspect-là de ma vie, il m'a permis de devenir propriétaire. Toute chose arrive en point correspondant aussi à ce dont nous avons réellement besoin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a là quelque part une forme de traumatisme qui parfois traverse là notre propre existence. Et certains pourraient dire, mais Dieu est réellement dur. Pour le coup, il est réellement bouillant. D'une colère franche, il nous met dehors. Se rappeler que dans ce texte-là, il s'agit d'une mesure de sauvegarde. D'une mesure de sauvegarde, non pas de la méchanceté, comme nous l'entendons souvent, parce que il s'agirait d'un acte délibérément méchant, mais il s'agit très clairement et sans ambiguïté d'une mesure de sauvegarde par rapport à la possibilité pour l'homme de demeurer avec le mal et pour l'éternité. Ça, de ça, Dieu ne veut pas, et il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Deuxième porte, vous voulez parler de l'arche. Vous allez trop vite, les amis. Je vais vous parler de la première fois où, littéralement, on parle de la porte. On ne la sous-entend pas. On va aller, si vous voulez bien, Cain et Abel. Ah, vous me dites, mais où est-ce qu'il va ? C'est la première fois où le mot de porte est réellement utilisé. Ah oui ? Ah ben oui, évidemment. L'Éternel dit à Cain, vous rappelez, hein, le frangin jalousant, le sacrifice qui a été agréé par l'autre frangin. L'Éternel va venir dire à Cain, pourquoi es-tu irrité, mais pourquoi ton visage est-il abattu ? Style, mine de rien, je fais comme si je ne savais pas exactement ce qui se passe, mais la question, elle est rhétorique pour te permettre de réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Et la phrase, littéralement, est la suivante. Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu agis pas bien, le péché qui est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, tu peux dominer sur lui. Les amis, est-ce que la porte dans le texte est quelque chose de comme celle que je peux ouvrir ici à ma droite ? Non. On est en train de décrire une porte qui est ouverte sur le registre de ce qui fait notre vécu intérieur, sur ce qui fait que parfois le cœur s'emballe, sur ce qui fait que parfois la température monte, sur ce qui fait que parfois on peut voir rouge, sur ce qui fait que parfois on a tellement le besoin d'exister dans le regard de quelqu'un qu'on est prêt à tout, y compris à supprimer la concurrence, pour pouvoir exister. Il nous parle de la porte du cœur, de la porte de ce qui fait de cette porte qui est tellement difficile à contrôler entre notre vécu intérieur et cet extérieur qui est Dieu et qui vient pour nous dire, écoute, là, tu sais quoi ? À ta porte, à la porte de ton cœur, à la porte de ton être, il y a quelque chose de dramatique qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est tapis et qui est caché. Et j'aime ce Dieu qui vient à cet endroit-là particulier pour nous dire, tu sais quoi ? Là, tu as envie de monter en température, d'envie d'être complètement bouillant. Tu as envie, tu as une pulsion de meurtre qui est réellement là. Mais d'un Dieu qui ne se contente pas d'observer en disant, tiens, voyons un petit peu ce qu'il va se passer. Dieu n'est pas un sadique, mes amis, qui nous verrait nous débattre dans nos préoccupations quotidiennes. Il est celui-là qui prend le risque de l'interpellation pour nous dire, tu sais quoi, je vais te révéler ce qu'il y a derrière ta porte. Ça ne va peut-être pas te faire plaisir que d'entendre qu'il y a quelqu'un d'autre que toi qui est capable de voir ce qui se passe chez toi, qui est capable de te dire, tu sais quoi, tu vois rouge, mais ce qu'il y a devant ta porte, bien caché, que tu as du mal à discerner, je vais le révéler pour que tu puisses voir, rappelez-vous le verset de l'Apocalypse, nouveaux yeux, collier, pour que tu puisses voir ce qui est en train de se passer. Nous avons un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est capable de révéler ce qui est au seuil de notre être. Non pas pour nous condamner, mais pour faire ce que j'appelle de la prévention. Vous savez, souvent cette phrase qui dit « Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans notre monde ?» Mais le rôle de la chrétienté, les amis, c'est quoi ? C'est d'être très clair, sans ambiguïté, dans ce travail de prévention, que ce soit sur le registre de l'éthique, que ce soit sur le registre de l'économie aussi, dans le partage des richesses, que ce soit sur tous ces sujets qui font que l'homme doit être préservé. Et nous avons un rôle, pas seulement de nous réunir là pour louer Dieu, mais d'en ressortir pour dire, et pour dire haut et fort, là, il y a des vies qui risquent d'être ôtées. Là, il faut avertir parce que telle population est en danger. Un rôle où l'Église sort de ses murs, traverse sa porte pour aller et pour prendre sa responsabilité comme Dieu l'a fait à l'égard de Caïn. Donc on l'a dit, une porte avec un cœur qui est ouvert. J'avance un tout petit peu, une autre porte, allez. La porte, vous l'avez citée, c'était la porte de l'arche de Noé, comme on dit. Et ce qui est intéressant dans cette porte-là, c'est que c'est Dieu qui sollicite la construction, vous le savez, c'est l'architecte de ce lieu-là, et que la porte va rester ouverte sur un laps de temps extrêmement grand. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous met dehors sans nous proposer un refuge qui soit sûr. Et j'aime ce Dieu qui est aussi celui qui ne va pas dire à l'homme « C'est toi qui vas fermer la porte, mais c'est moi qui la forme. » C'est moi qui vais la fermer. Verset chapitre 7 de la Genèse, verset 16. Il entra mâle et femelle de chaque chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est l'Éternel qui prend la décision de ce moment précis dans l'histoire de l'humanité où il y a un dedans préservé et un extérieur qui est livré à son propre choix. On a toujours l'impression, et ça c'est toujours le projet qui est fait à Dieu, mais si Dieu est un Dieu juste, bon, aimant, alors, comme dit la chanson, on ira tous au paradis. Mais quelle serait la justice d'un Dieu qui forcerait la main à ceux qui refusent de vivre l'éternité avec lui ? La réalité, c'est celle d'une liberté, et d'une liberté qui prend en compte. Et remarquez une chose, Dieu ne dit pas à Noé ou ne laisse pas Noé fermer la porte de son propre chef. C'est lui qui le fait. Et ça, pour moi, c'est un bon enseignement aussi pour nos communautés. Parfois, on peut être tenté d'avoir ce rôle de fermer, de repli sur soi, pour se préserver, pour etc., etc. Mais jusqu'au dernier moment, c'est Dieu qui va décider de ce moment-là précis. Et ça, pour moi, c'est interpellant, parce que souvent, on prend les devants, et on est ceux qui faisons pour Dieu et qui décidons quelque part un petit peu pour lui. On n'est pas dans cette écoute, dans cette attente de ces signes que le Seigneur nous donne pour avancer. Allez, on avance un petit peu dans le texte. Il y a deux, trois autres choses que j'aimerais voir avec vous. Néhémie, c'est un livre que j'aime beaucoup. On parle d'autres portes, mais celle-là, c'est la porte de la honte et de la désolation. Si vous allez au chapitre 1, allez, je termine vite, hein. Je termine vite, mais lentement. Et que vous regardez Néhémie, vous le savez, à ce moment-là de l'histoire du peuple d'Israël, il est en déportation. Et on vient de... L'un de ses frères qui arrive de Juda arrive, et Néhémie va le questionner, comme il nous dit au verset 2, au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils lui répondirent, à propos de Jérusalem, « Ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches, et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnai, je priai devant Dieu, le Dieu des cieux. » Néhémie et chanson du roi, situation relative, très confortable, quoique un petit peu stressante quand même. Hein. Quand vous êtes échanson, vous goûtez avant que le roi ne goûte. Et s'il y a un pare-feu qui doit sauter, enfin s'il y a un pare-feu qui doit faire le boulot, c'est vous. Vous mourrez et le roi est sauvé. Donc c'est un job privilégié parce que vous êtes proche du roi, vous bénéficiez d'un jeu, mais en même temps, vous vivez quand même une situation un petit peu stressante à chaque repas. Donc imaginez-vous un petit peu l'état. Hein, on n'imagine pas trop ce que cela signifie. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que cet homme-là, qui est dans la condition qui est dans la sienne, avec un statut, avec un, va s'enquérir de ce qui se passe là-bas au pays. Il saisit l'occasion de quelqu'un qui revient de là-bas pour lui poser la question, et alors qu'il entend le comble, alors qu'il entend une description qui décrit, voilà, un comble du malheur et du déshonneur, et que ce malheur et ce déshonneur, c'est quoi? C'est la muraille de Jérusalem qui a des brèches et que les portes sont brûlées, il se met littéralement en pleurs. Et moi, ce qui me touche, c'est que le rapport qui lui est fait décrit autant les personnes qui sont restées dans cet extrême dénuement que cette ville qui symbolise tant pour lui, qui se trouve dans ce tel déshonneur. Et ce qui me touche, c'est qu'il aurait pu rester profondément insensible. Style, moi je suis ici, je dois gérer déjà mes propres problèmes. Ça, c'est ma réalité derrière ma porte à moi. Ce qui me touche, c'est qu'il se met à pleurer, et à pleurer, à s'asseoir, il y a vraiment de l'abattement chez lui, à pleurer, et pendant plusieurs jours, il va même en prendre le deuil. Cette situation-là m'interpelle parce que malgré les centaines de kilomètres qui les séparent de ce lieu-là, Néhémie est capable d'empathie devant le déshonneur, devant la détresse dans laquelle se trouve son peuple et sa ville. Je me rappelle un jour un pasteur qui se fait interpeller par quelqu'un, je ne me rappelle plus exactement, qui le voit descendre à un feu sa vitre avec quelques pièces dans la main pour donner de l'argent à, vous savez, au mendiant qui est au bout. Et une personne qui est à côté lui fait, mais tu ne vas pas lui donner de l'argent, je veux dire, il est là tous les jours, tu vois son teint rougeau, c'est quand même, tu sais ce qu'il va faire de l'argent, quoi. Et vous connaissez tous cette petite réflexion, cette petite musique qu'on a dans la tête. Il va prendre l'argent et puis quand il aura assez, il ira acheter sa canette de bière. Comment tu peux participer à ça et l'encourager à rester là-dedans? Et ce pasteur de dire, mais ce geste-là, je le fais autant pour lui parce que je veux continuer de croire qu'il peut faire bon usage de cet argent-là que je le fais pour moi. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas laisser la porte de mon cœur se fermer complètement sur ce qu'est une générosité sans attente de justification de l'usage qui va être fait de ma générosité. Et je me dis que parfois, lorsqu'on est saturé d'images de ces catastrophes qui se placent à droite, à gauche, et je constate une chose, c'est qu'on n'arrive même plus à s'émouvoir de ces portes qui sont brûlées, de ces murailles qui sont éventrées, de cette détresse qui crie. Et je loue les communautés qui ont des missions ou des projets de soutien d'une école quelque part, un endroit où il y a besoin, qui incarnent le désir, à la fois le symbole d'une conviction réelle qu'on ne peut pas rester ici sans être en lien avec le monde, mais le désir d'incarner concrètement une action collective en faveur de ça. Parce que cette action collective choisie permet à la communauté et permet à chaque individu d'exercer sa générosité. On n'est pas juste en train de récolter des offrandes pour le vécu local. On le fait aussi parce que, comme Néhémie, à des milliers de kilomètres parfois de distance, nous voulons exercer la générosité de notre cœur, prendre le deuil, nous relier à la souffrance de ceux qui ont tout perdu et qui sont au comble du déshonneur. C'est là une des missions de l'Église. C'est là un rendez-vous au pied d'une porte qui est brûlée. Et juste pour le petit détail qui est croustillant, vous savez quoi? La première porte reconstruite, celle qui est-elle? Je vais peut-être arriver à parler français. Eh bien, vous allez au chapitre 3, où on nous parle des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres, de ceux qui sont là, qui se lèvent avec ses frères, les sacrificateurs, et qui bâtissent quoi? Qui bâtissent la porte des brebis. Ils la consacrèrent en en fixant les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Anaël. Verset 1 du chapitre 3 de Néhémie. Un moment extraordinaire où même dans la symbolique, on va prendre soin de cette porte des brebis et on va lui redonner ce dont elle a besoin pour que les brebis puissent entrer et puissent sortir. Je trouve ça intéressant parce que ça peut, là aussi dans la symbolique, nous encourager dans notre mission qui est celle de dire à chaque fois que j'annonce la parole du Christ, que je prends soin des brebis au sens générique du terme, mais de mon frère, de mes sœurs, eh bien, je suis celui-là même qui œuvre avec les Lévites pour que la cité puisse être reconstruite. Et puisqu'on parle de brebis, on va aller chez Jean. On va aller chez Jean au chapitre 10, un texte qui est connu sur le bout des doigts par tout le monde. Un texte que j'aime beaucoup et qui là aussi fonde notre ministère commun avec Eric, sans doute, mais qui peut aussi fonder notre ministère collectif. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y montre par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis, tiens donc, entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène au dehors. Jean, ce même auteur de l'Apocalypse qui est là et qui nous parle de portes, de brebis. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Qu'est-ce qu'il est bon, les amis, de franchir la porte de l'enclos et d'en sortir, non pas complètement insécurisé par ce qui nous entoure, mais se sachant précédé par quelqu'un dont nous connaissons la voie, qui sait là où le monde va et qui est disponible pour m'accompagner dans les pâturages. Et le texte devient savoureux à ce point que Jésus se décrit à la fois comme le berger qui franchit la porte, mais parce qu'ils ne comprennent rien à ce qu'il est en train de dire, il va leur dire quoi ? En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Vous avez vu, on a joué un petit peu comme ça, à saute-mouton entre les textes. Mais le texte nous renvoie et nous ramène à l'Apocalypse et à la scène qu'on va vivre juste derrière. Jésus-Christ se décrit comme la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et bizarrement, on nous dit, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Il trouvera ce dont il a besoin. J'arrête là sur ce texte-là, mais j'aimerais revenir sur le livre de l'Apocalypse et relire ce verset qui est là et qui est l'invitation que le Christ nous fait à chacun. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Il s'agit d'une porte dont on a vu la définition au tout début. Ce n'est pas forcément la porte que vous voyez ici à ma droite. On l'a bien compris, c'est cette porte qui est là, qui est la porte de mon cœur, la porte de mon être. Cette porte dont parfois je ne sais pas comment la gérer. Cette porte dont Dieu lui-même a dit que parfois derrière sont tapis des intentions qui sont mortifères. Cette porte que Dieu prend le soin de frapper sans la défoncer, suffisamment fort pour être entendu, pour attirer mon attention, suffisamment fort pour que je me décide. Je ne peux pas la laisser entrebâiller, cette porte. Je la ferme ou je l'ouvre complètement. Je suis froid, où je suis bouillant complètement de ce que le Christ me propose de vivre. Cette porte, où si quelqu'un entend la voix qui est derrière, il est rassuré parce que c'est une voix qui est connue. C'est une petite musique qu'il a déjà entendue peut-être dans son enfance. Et cela nous renvoie à cette mission que nous avons. Nous avons l'impression que les gens sont comme il y a 50 ans, avec une base biblique qui leur permet d'avoir les mêmes codes de réflexion, mais la base même de ce qu'est l'Évangile, les gens ne saisissent même plus qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière le mot de Jésus. On nous parle du Fils de Dieu, mais c'est des notions qui sont de plus en plus lointaines. Seigneur, aide-nous à faire en sorte que cette voix soit connue comme une voix qui rassure, et non pas comme une voix qui agresse ou qui inquiète. Et si tu es sensible à cette voix-là, et alors que la scène va être vécue, voilà ce que le Christ te propose. Tu es en sécurité, cette voix tu la connais. Tu n'es pas rejeté parce que je t'ai mis en sauvegarde de quelque chose de mortel pour l'éternité. Tu es sauvegardé comme j'ai pu le faire à certains moments dans cette arche. Tu es dans cette église, considère-la comme un lieu où tu es en sécurité, où tu vas pouvoir vivre avec ta famille, t'épanouir, en attendant que la porte soit réouverte. Tu es devant peut-être ces situations désespérées qui te dépassent complètement et tu ne sais pas comment faire. Prends le temps de prier. Prends le temps d'être touché par la détresse de l'autre. Ne refuse pas ce désarroi, ces pleurs. Fais les tiens pour mieux les remettre entre les mains de celui qui a les moyens de régler ces problèmes-là. Mais prends tes responsabilités. Si tu es berger, accepte de suivre le grand berger. Si tu fais partie du troupeau, ne refuse pas d'être guidé, d'être accompagné. Et découvre le bonheur que c'est que d'être guidé, de ne pas être ton seul maître, mais d'être accompagné et d'être conseillé. Alors, si tu vis tout cela, eh bien, tu sais quoi ? Tu vas pouvoir manger, je vais souper avec toi, et toi, tu vas apprendre à souper avec moi. Non pas à être seulement dans les préparatifs du repas pour bien me recevoir, mais tu sais quoi ? À un moment donné, tu vas toi aussi te poser et prendre le temps de manger avec moi. Tu n'es pas seulement l'héritier de la parole qui t'a été transmise par tes parents, mais tu es celui qui est convié à la table et qui découvre un goût nouveau à sa propre vie. La perspective, mes amis, c'est celle de la victoire. Non pas d'un trône qui est disputé avec qui sera à droite ou qui sera à gauche. La perspective que donne ce repas proposé avec le Christ, c'est quoi ? C'est celle d'un trône où on peut s'asseoir avec. Moi, je lis le texte, hein. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il n'y a pas de à droite ou à gauche. Alors j'imagine la taille du trône, les amis. Ok ? Parce que si on doit y mettre tout le monde, ça devient compliqué. Mais ce n'est pas compliqué pour Dieu, parce que dans son royaume, il y a un repas où de la même manière que le Christ est venu pour souper avec nous ici-bas, il y aura la place pour manger avec lui, sans crainte, mais seulement dans la joie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.